2. La chevauchée des Orles. À l'époque où les Éothéodes vivaient encore dans leur ancien pays, ils avaient bonne réputation au Gondor, où ils étaient considérés comme des gens de confiance dont on tenait toutes les nouvelles de ce qui se passait dans leur région. Ils étaient les derniers de ces hommes du Nord, jadis apparentés, croyait-on, aux Dunedain. Et au temps des grands rois, ils avaient été leurs alliés et avaient versé leur sang en abondance pour les gens du Gondor. Aussi on fut en grand souci au Gondor lorsque les Éothéodes durent migrer dans le Nord lointain sous le règne d'Éärnil II, l'avant-dernier roi du royaume du Sud. Le nouveau pays des Éothéodes se déployait au nord de Grand-Peur, entre les montagnes de brume à l'ouest et la rivière de la forêt à l'est. Au sud, il s'étendait jusqu'au confluent des deux courtes rivières qu'on appelait la Greilin et la Langwell. La Greilin descendait des Eredmithrin, les montagnes grises, tandis que la Langwell jaillissait dans les montagnes de brume, et elle portait ce nom car elle était la source de l'Anduin, et ce dernier, à partir de son confluent avec la Greilin, prenait le nom de Langflood. Des messagers allaient et venaient encore entre le Gondor et les Éothéodes, même après leur migration. Mais il y avait quelque 450 de nos milles entre le confluent de la Greilin et de la Langwell, où se trouvait leur unique bourg fortifié, et le point où la Limclair se jetait dans l'Anduin, et ce à vol d'oiseau, et la distance était plus grande encore pour qui voyageait à pied. Et pour atteindre ainsi Minas Tirith, il fallait bien compter quelque 800 milles. La chronique de Kirion et des Orles ne fait état d'aucun événement avant la bataille du champ de la Celebrant. Mais à partir d'autres matériaux, on peut reconstituer ce qui suit. Les vastes contrées au sud de Grand-Peur, depuis les terres brunes jusqu'à la mer du Rhône, qui, avant d'atteindre l'Anduin, n'offrait aucune barrière naturelle aux envahisseurs venant de l'Est, était une source constante de soucis et d'inquiétudes pour les souverains du Gondor. Mais durant la paix vigilante, les forts le long de l'Anduin avaient cessé d'être entretenus et se voyaient négligés, notamment sur la rive occidentale des Bas-Fonds. Par la suite, le Gondor, assailli à la fois par les orques en provenance du Mordor, que depuis longtemps on négligeait de faire garder, et par les corsaires d'Umbar, ne disposait ni des hommes ni des possibilités de stationner des soldats sur le front de l'Anduin, au nord des Iminwil. Kirion devint intendant du Gondor en l'année 2489. La menace au nord lui était toujours présente à l'esprit, et dans la mesure même où s'amenuisaient les forces du Gondor, il songeait énormément aux moyens de faire face à une invasion de ce côté. Il posta quelques hommes au vieux fort pour surveiller les bas-fonds, et il envoya des éclaireurs et des espions parcourir les terres entre Grand-Peur et Dagorlad. Et c'est ainsi qu'il eut au fait de s'apercevoir que des ennemis nouveaux et redoutables en provenance de l'Est s'infiltraient régulièrement depuis les contrées au-delà de la mer du Rhône. Ils tuaient ou chassaient vers le nord et l'amont de la rivière courante, et même jusqu'au cœur de la forêt, les derniers vestiges des hommes du Nord, amis du Gondor, qui séjournaient encore à l'est de Grand-Peur. Mais Kirion ne pouvait rien pour eux, et la quête même de renseignements se faisait toujours plus périlleuse. Trop de ces éclaireurs ne revinrent jamais. Passa l'hiver de l'année 2509, et c'est seulement alors que Kirion prit conscience du grand mouvement qui se préparait contre le Gondor. Des troupes d'hommes se rassemblaient tout le long de la lisière sud de Grand-Peur. Ils n'avaient d'armes que rudimentaires, et guère de chevaux à monter, car ils les utilisaient surtout comme bêtes de trait, ayant quantité de grands chariots, comme en avaient les chariotiers, dont ils étaient manifestement parents, qui avaient attaqué le Gondor au dernier temps de ses rois. Mais pour ce qu'on en pouvait juger, ils compensaient par le nombre la pauvreté de leurs fourniments. En proie au désespoir, Kirion songea, dans ce péril extrême, aux Éothéodes, et il résolut de leur envoyer des messagers. Mais pour atteindre le Val de l'Anduin, il leur faudrait d'abord passer par le Calenardon et franchir les bas-fonds et traverser ensuite des contrées déjà surveillées et patrouillées par les Balkoth. Cela signifiait une chevauchée de quelque 450 milles jusqu'au bas-fonds, et de là, il y avait encore plus de 500 milles jusqu'à l'Éothéode. Et à partir des bas-fonds, il leur faudrait marcher précautionneusement et surtout de nuit, tant qu'ils se trouvaient dans l'ombre de Dol Guldur. Kérion avait peu d'espoir qu'aucun n'arrivât au but. Il fit appel à des volontaires, et choisissant 6 cavaliers braves et endurants, il les envoya 2 par 2, avec 1 jour d'intervalle entre chaque départ. Chacun d'eux portait un message appris par cœur, et aussi une petite pierre gravée du sceau des intendants, à remettre en main propre au seigneur des Éothéodes, si tant est qu'il parvenait à atteindre ses terres. Le message était adressé à Éorl, fils de Léode, car Kérion savait qu'il avait succédé à son père quelques années auparavant, lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent de 16 ans, et bien qu'il n'eût guère dépassé à ce jour 25 ans, d'après ce qu'on en avait entendu dire au Gondor, il était admiré comme homme de grand courage et d'une sagesse bien au-delà de son âge. Toutefois, Kérion n'avait qu'un faible espoir, à supposer même que le message soit remis, qu'on y fasse réponse. Et il n'avait aucun droit, sauf au nom de leur ancienne amitié avec le Gondor, d'exiger des Éothéodes qu'ils viennent d'aussi loin et avec toutes leurs forces disponibles pour les aider. Si la chose ne leur était pas déjà connue, apprendre que les Balkoth exterminaient les derniers des leurs dans le sud pouvait donner du poids à sa requête. Encore fallait-il que les Éothéodes ne fussent point eux-mêmes en butte à quelque attaque. Kérion ne dit rien de plus, et donna ordre aux troupes qui lui restaient de se préparer à l'orage. Il rassembla une armée aussi forte qu'il le put, et prenant personnellement le commandement, il se prépara le plus rapidement possible pour la conduire vers le nord, au Calenardon. Et à Minas Tirith, il remit le pouvoir aux mains de son fils, Halas. Le premier couple de messagers partit le 10e jour de Sulimei, et il se trouve que ce fut l'un de ces deux qui, seul de tous les 6, devait parvenir jusqu'à Léothéode. Et celui-là s'appelait Borondir, un illustre cavalier d'une famille qui se disait issue d'un capitaine des Hommes du Nord au service des rois de jadis. On ne devait jamais rien savoir de ce qu'il y advint des autres, hors le compagnon de Borondir. Il tomba sous les flèches lors d'une embuscade, tandis qu'il longeait les abords de Dol Guldur, embuscade dont se tira Borondir grâce à sa chance et à la rapidité de son cheval. Il fut pourchassé loin dans le nord, jusqu'au champ de Flambe, et il eut souvent à déjouer les guet-apens que lui dressaient les hommes embusqués dans la forêt, le contraignant à se détourner de sa droite route. Mais il atteignit enfin Léothéode après 15 jours de chevauchée, dont les 2 derniers sans nourriture. Et il était si exténué qu'il pouvait à peine prononcer le message devant Éorl. On était alors au 25e jour de Sulimei. Éorl délibéra en son fort intérieur et silencieusement. Mais il ne délibéra pas longtemps. Bientôt il se leva et dit « Je viendrai. Si tombe Munburg, où fuirons-nous donc les ténèbres ?» Et il prit la main de Borondir en gage de promesse. Éorl convoqua sur le champ son conseil d'anciens et fit ses préparatifs pour la grande chevauchée. Mais cela prit plusieurs jours, car il fallait lever une armée, la mettre sur pied et réfléchir au gouvernement du peuple et à la défense de ses terres. À cette époque-là, les Éothéodes étaient en paix et ne craignaient point la guerre. Mais les choses pouvaient bien changer dès qu'on saurait que leur seigneur était parti se battre loin au sud. Néanmoins, Éorl appréhenda clairement que rien de moins que sa pleine force serait d'une quelconque utilité et qu'il devait tout risquer ou bien se dérober et rompre sa promesse. Enfin, l'armée entière fut rassemblée. On ne laissa que quelques centaines d'hommes au pays pour soutenir ceux qui, trop jeunes ou trop vieux, n'étaient pas en âge de participer à une entreprise à ce point désespérée. On était au 6e jour du mois de Viresse, et ce jour-là, dans un profond silence, la grande Éoëré s'ébranla, et elle laissait la peur derrière elle, et n'emportait qu'un espoir ténu. Car ils ne savaient pas ce qui les attendait, ou sur la route, ou au terme du voyage. On dit qu'Éorl conduisit au combat quelques 7000 cavaliers en grand arroi, et plusieurs centaines d'archers à cheval. À sa main droite, chevauchait Borondir pour servir de guide au mieux de son pouvoir, puisqu'il avait récemment traversé ses terres. Mais cette puissante armée ne rencontra ni menace ni attaque durant sa longue chevauchée le long du val de l'Anduin. Les gens, bons ou mauvais, qui entrevoyaient son approche, fuyaient à son passage, effrayés par tant de force et de magnificence. Et comme tirant vers le midi, elle traversait le sud de grand-peur, sous la grande anse de l'Est, une contrée désormais infestée par les Balkoth, elle ne trouva nulle trace d'homme. ni troupes pour lui barrer la route, ni éclaireurs pour espionner sa marche. Cela était dû en partie à des événements qui leur étaient inconnus, survenus depuis le départ de Borondir. Mais d'autres pouvoirs étaient aussi à l'œuvre. Car lorsque l'armée s'approcha enfin de Dol Guldur, Eorl obliqua vers l'ouest, par crainte de l'ombre ténébreuse et du nuage qui s'en dégageait. Et il poursuivit dans cette direction jusqu'à ce qu'ils fussent en vue de l'Anduin. Nombre des cavaliers tournèrent leurs yeux de ce côté, moitié par peur, moitié dans l'espoir d'apercevoir de loin le chatoiement de la Duimordine, la périlleuse contrée dont on disait dans les légendes de leur peuple qu'elle brillait au printemps comme de l'or. Mais pour l'heure, elle apparaissait comme enveloppée d'un brouillard étincelant, et ils se désolèrent de voir le brouillard gagner la rivière et déferler sur tout le pays devant leurs pas. Eorl ne s'arrêta pas.
« En avant » ordonna-t-il. « Il n'y a point d'autre chemin à prendre. Et après une si longue chevauchée, nous n'allons pas laisser la brume qui monte de la rivière nous détourner du combat. »
Et s'approchant, ils virent que la blanche nuée repoussait les ténèbres de Dol Guldur, et bientôt ils y pénétrèrent, chevauchant lentement au début et précautionneusement. Mais sous ces courtines, toute chose s'éclairait d'une lumière limpide et sans nulle ombre, tandis qu'ils allaient comme entourés de murs blancs, préservant leur discrète progression.
« La dame du bois doré est avec nous, semble-t-il, » dit Borondir.
« Cela se peut, » dit Eorl. « Mais quant à moi, je me fierai plus volontiers à la sagacité de Felaroth. Il ne hume aucun mal. Son cœur est exalté et sa lassitude allégée. Il tire pour qu'on lui rende la bride. Et allons, car jamais je n'ai tant souhaité furtivité et célérité. »
Alors Felaroth bondit en avant et toute l'armée derrière lui suivit en bourrasque. Mais dans un étrange silence, comme si les sabots de leurs chevaux ne touchaient pas terre. Et ils galopèrent ainsi, aussi frais et ardents qu'au matin de leur départ, tout le jour durant et le jour suivant. Mais à l'aube du troisième jour, ils se relevèrent après un peu de repos, et le brouillard soudain s'était dissipé, et ils virent qu'ils avaient cheminé loin dans la rase campagne. Et sur la droite coulait l'Anduin tout proche, mais ils avaient presque dépassé la grande boucle que décrit le fleuve vers l'est, et les bas-fonds étaient en vue. C'était le matin du 15e jour de Vilessé, et ils étaient arrivés en ce lieu avec une promptitude inespérée. Ici s'achève le texte avec une note indiquant que doit suivre une description de la bataille du champ de la Célébrante. L'appendice A2 du Seigneur des Anneaux donne un récit sommaire des hostilités. Une grande armée d'hommes sauvages du nord-est envahit le Rovanion, et, descendant par les terres brunes, franchit l'Anduin sur des radeaux. Au même moment, par hasard ou à dessein, les orques, qui à cette époque, avant la guerre contre les nains, étaient fort nombreux, descendirent des montagnes et firent incursion dans les terres. Les envahisseurs occupèrent le Calenardon, et Kirion, intendant du Gondor, envoya quérir de l'aide au nord. Lorsque Eorl et ses cavaliers atteignirent le champ de la Célébrante, il est dit que, là, l'armée septentrionale du Gondor était aux abois. Défaite sur le Vold et coupée de sa retraite au sud, elle avait été refoulée au-delà de la lime claire où des troupes d'orques l'avaient soudainement assaillie, la poussant vers l'Anduin. Tout espoir était perdu, lorsque, contre toute attente, les cavaliers surgirent du nord et s'abattirent sur les arrières de l'ennemi. Alors la fortune des armes se retourna. Et l'ennemi fut chassé au-delà de la lime claire avec grand massacre. Eorl mena ses hommes à la poursuite des assaillants, et une si grande peur les précédait que les envahisseurs du Vold furent eux aussi mis en déroute, et les cavaliers les pourchassèrent à travers les plaines du Calenardon. Un récit analogue, mais plus bref, figure ailleurs dans l'appendice A, 1-4. Ni l'un ni l'autre ne nous renseigne clairement sur le déroulement du combat, mais il semble certain que les cavaliers, ayant passé les bas-fonds, franchirent alors la ligne claire et tombèrent sur l'arrière-garde ennemie au champ de la Célébrante, et que l'ennemi fut chassé au-delà de la ligne claire avec grand massacre, signifie que les Balkoth furent refoulés dans le Vold plus au sud.